Nicolas Vassilievitch Gogol, le portrait, première partie. Nulle boutique du marché de Chouquine n'attirait tant la foule que celle du marchand de tableaux. Elle offrait à vrai dire au regard le plus amusant, le plus hétéroclite des bric-à-brac. Dans les cadres dorés et voyants, s'étalaient des tableaux peints, pour la plupart à l'huile et recouverts d'une couche de vernis vert foncé. Un hiver aux arbres de céruse, un ciel embrasé par le rouge vif d'un crépuscule qu'on pouvait prendre pour un incendie. Un paysan flamand qui, avec sa pipe et son bras désarticulé, rappelait moins un être humain qu'un dindon en manchette. Tels en étaient les sujets courants. Ajoutez à cela quelques portraits gravés, celui de Rotsfres Mirza en bonnet d'Astrakhan, ceux de je ne sais quel généraux, le tricorne en bataille et le nez de guingois. En outre, comme il y a de règles en pareil cas, la devanture était tout entière tapissée de ces grossières estampes imprimées à la diable, mais qui pourtant témoignent des dons naturels du peuple russe. Sur l'une se pavane la princesse Milikritis Christievievna, sur une autre s'étale la ville de Jérusalem, dont un pinceau sans vergogne a enluminé de vermillon les maisons, les églises, une bonne partie du sol et jusqu'aux mains emmitouflées de deux paysans russes en prière. Et ces œuvres, que dédaignent les acheteurs, font les délices des badauds. On est toujours sûr de trouver, bâillant devant elle, tantôt un musard de valet apportant de la gargote la cantine où repose le dîner de son maître, lequel ne risqua certes pas de se brûler en mangeant la soupe, tantôt l'un de ces chevaliers du carreau des fripiers, militaires retraités qui gagnent leur vie en vendant des canifs, tantôt quelques marchands ambulants du faubourg d'Ortar, colportant un éventaire chargé de savates. Chacun s'extasie à sa façon. D'ordinaire, les rustos montrent les images du doigt, les militaires les examinent avec des airs dignes, les grooms et les apprentis s'esclavent devant les caricatures, y trouvant prétexte à taquinerie mutuelle. Les vieux domestiques, en manteau de frise, s'arrêtent là, histoire de flâner, et les jeunes marchandes s'y précipitent d'instinct en braves femmes russes, avides d'entendre ce que racontent les gens et de voir ce qu'ils sont en train de regarder. Cependant, le jeune peintre Tcharkov, qui traversait la galerie, s'arrêta lui aussi involontairement devant la boutique. Son vieux manteau, son costume plus que modeste, décelait le travailleur acharné, pour qui l'élégance n'a point cet attrait fascinateur qu'elle exerce d'ordinaire sur les jeunes hommes. Il s'arrêta donc devant la boutique, et puis après s'être gaussé à part soi de ses grotesques enluminures, il en vint à se demander à qui elle pouvait bien être utile. Que le peuple russe se complaise à reluquer Yeruslan Nazarievitch, l'ivrogne et le glouton, Thomas et Jérémie et autres sujets pleinement à sa portée, passent encore, se disait-il. Mais qui diantre peut acheter ces abominables croûtes, paysanneries flamandes, paysages bariolés de rouge et de bleu, qui soulignent, hélas, le profond avilissement de cet art dont elles prétendent relever. Si encore c'était là les essais d'un pinceau enfantin, autodidacte, quelques vives promesses trancheraient sans doute sur le morne ensemble caricatural. Mais on ne voit ici qu'hébétude, impuissance et cette sénile incapacité qui prétend s'immiscer parmi les arts au lieu de prendre rang parmi les métiers les plus bas. Elle demeure fidèle à sa vocation en introduisant le métier dans l'art même. On reconnaît sur toutes ses toiles les couleurs, la facture, la main lourde d'un artisan, celle d'un grossier automate plutôt que d'un être humain. Tout en rêvant devant ces barbouillages, Tchartkov avait fini par les oublier. Il ne s'apercevait même pas que depuis un bon moment, le boutiquier, un petit homme en manteau de frise dont la barbe datait du dimanche, discourait, bonimentait, fixait les prix, sans s'inquiéter le moins du monde des goûts et des intentions de sa pratique. C'est comme je vous le dis, 25 roubles pour ces gentils paysans et ce charmant petit paysage. Mais quelle peinture, monsieur, elle vous crève l'œil, tout simplement. Je viens de les recevoir de la salle des ventes. Ou encore, cet hiver, prenez-le pour 15 roubles. Le cadre à lui seul vaut davantage. Ici, le vendeur donna une légère chiquenaude à la toile pour montrer sans doute toute la valeur de ce hiver. Faut-il les attacher ensemble et les faire porter derrière vous? Où habitez-vous? Hé, là-bas, l'apprenti, apporte une ficelle. Un instant, mon brave, pas si vite, dit le peintre revenu à lui, en voyant que le madré compère ficelait déjà les tableaux pour de bon. Et comme il éprouvait quelque gêne à s'en aller les mains vides, après s'être si longtemps attardé dans la boutique, il ajouta aussitôt « Attendez, je vais voir si je trouve là-dedans quelque chose à ma convenance. » Il se baissa pour tirer d'un énorme tas empilé par terre de vieilles peintures poussiéreuses et ternies qui ne jouissaient évidemment d'aucune considération. Il y avait là d'anciens portraits de famille dont on n'aurait sans doute jamais pu retrouver les descendants, des tableaux dont la toile crevée ne permettait pas de reconnaître le sujet, des cadres dédorés, bref, un ramassis d'antiquailles. Notre peintre ne les examinait pas moins en conscience. Peut-être, se disait-il, dénicherais-je là quelque chose. Il avait plus d'une fois entendu parler de trouvailles surprenantes, de chefs-d'œuvre découverts parmi le fatras des regrattiers. En voyant où il fouait le nez, le marchand cessa de l'importuner et, retrouvant son importance, reprit près de la porte sa fonction faction habituelle. Il invitait, du geste et de la voix, les passants à pénétrer dans sa boutique. « Par ici, s'il vous plaît, monsieur, entrez, entrez. Voyez les beaux tableaux, tout frais reçus de la salle des ventes. » Quand il fut là de s'époumoner, le plus souvent en vain, et qu'il eut bavardé tout son sou avec le fripier d'en face, posté lui aussi sur le seuil de son antre, il se rappela soudain le client oublié à l'intérieur de la boutique. « Eh bien, mon cher monsieur, lui demanda-t-il en le rejoignant, avez-vous trouvé quelque chose ?» Depuis un bon moment, le peintre était planté devant un tableau dont l'énorme cadre, jadis magnifique, ne laissait plus apercevoir que des lambeaux de dorure. C'était le portrait d'un vieillard drapé dans un ample costume asiatique. La fauve ardeur du midi consumait ce visage bronzé, parcheminé aux pommettes saillantes, et dont les traits semblaient avoir été saisis dans un moment d'agitation convulsive. Si poussiéreuse, si endommagée que fut cette toile, Tcharkov, quand il l'eut légèrement nettoyée, il reconnut la main d'un maître. Bien qu'elle parût inachevée, la puissance du pinceau s'y révélait stupéfiante, notamment dans les yeux. Des yeux extraordinaires auxquels l'artiste avait sans doute accordé tous ses soins. Ces yeux-là étaient vraiment doués de regard, d'un regard qui surgissait du fond du tableau et dont l'étrange vivacité semblait même en détruire l'harmonie. Quand Tcharkov approcha le portrait de la porte, le regard se vit encore plus intense, et la foule elle-même en fut comme fascinée. « Il regarde, il regarde !» s'écria une femme en reculant. Cédant à un indéfinissable malaise, Tcharkov posa le tableau par terre. « Alors vous le prenez ?» s'enquit le marchand. « Combien ?» demanda le peintre. Oh, pas cher, 75 copecs. Oh non. Ben, combien en donnez-vous? Bon, 20 copecs, dit le peintre, prêt à s'en aller. 20 copecs, mais vous voulez rire, le cadre vaut davantage. Vous avez sans doute l'intention de l'acheter que demain. Monsieur, oh non, revenez, achetez, ajoutez au moins 10 copecs. Non? Eh bien, allez, prenez-le pour 20 copecs. C'est seulement pour que vous m'étreigniez. Vous avez de la chance d'être mon premier acheteur. Il eut un geste qui signifiait « Allons, tant pis, voilà un tableau de perdu. » Par pur hasard, Tchalkov se trouva donc avoir fait l'emplette du vieux portrait. « Ah ça, songea-t-il, mais pourquoi diantre l'ai-je acheté? Qu'en ai-je besoin ?» Mais force lui fut de s'exécuter. Il sortit de sa poche une pièce de 20 copecs, la tendit au marchand et emporta le tableau sous son bras. Chemin faisant, il se souvint non sans dépit que cette pièce était la dernière qu'il possédait. Une vague amertume l'envahit. Ah, Dieu, que le monde est mal fait, se dit-il, avec la conviction d'un Russe dont les affaires ne sont guère brillantes. Insensible à tout, il marchait à grands pas machinaux. Le crépuscule couvrait encore la moitié du ciel, caressant d'un tiède reflet les édifices tournés vers le couchant. Mais déjà la lune épandait son rayonnement froid et bleuâtre. Déjà les maisons, les passants, projetaient sur le sol des ombres légères, quasi transparentes. Peu à peu, le ciel, qui illuminait une clarté douteuse, diaphane et fragile, retint l'œil du peintre, cependant que sa bouche laissait échapper presque simultanément des exclamations dans le genre de « Oh, quel ton délicat !» ou « Zut, quel bougre de sottise !» Puis il hâtait le pas en remontant le portrait qui glissait sans cesse de dessous son aisselle. Harassé, essoufflé, tout en nage, il regagnait enfin ses pénates dans la 15e ligne, tout au bout de l'île Basile. Il grimpa péniblement l'escalier, où parmi des flots d'eau ménagère, chiens et chats avaient laissé force souvenirs. Il heurta la porte. Comme personne ne répondait, il s'appuya à la fenêtre et attendit patiemment que retentissent derrière lui les pas d'un gars en chemise bleue. L'homme à tout faire qui lui servait de modèle, broyait ses couleurs et balayait à l'occasion le plancher que ses bottes ressalissaient aussitôt. Quand son maître était absent, ce personnage, qui avait nom Nikita, passait dans la rue le plus clair de son temps. L'obscurité l'empêcha un bon moment d'introduire la clé dans le trou de la serrure, mais enfin il y parvint. Alors Tcharkov put mettre le pied dans son antichambre, où sévissait un froid intense, comme chez tous les peintres, qui d'ailleurs ne prennent nulle garde à cet inconvénient. Sans tendre son manteau à Nikita, il pénétra dans son atelier, vaste pièce carrée mais basse de plafond, aux vitres gelées, encombrées de tout un bric-à-brac artistique. Fragments de bras en plâtre, toiles encadrées, esquisses abandonnées, draperies suspendues aux chaises. Très las, il rejeta son manteau, posa distraitement le portrait entre deux petites toiles et se laissa choir sur un étroit divan dont on n'aurait pas dû dire qu'il était tendu de cuir, tant la rangée de clous qu'il fixait le dit cuir n'en était depuis longtemps séparée. Aussi Nikita pouvait-il maintenant fourrer dessous les bas noirs, les chemises, tout le linge sale de son maître. Quand il se fut étendu, autant qu'il était possible de s'étendre, sur cet étroit divan, Tcharkov demanda une bougie. Il n'y en a pas, dit Nikita. Comment cela? Ben hier, déjà, il n'y en avait plus. Le peintre se rappela qu'en effet, hier déjà, il n'y en avait plus. Il jugea bon de se taire, se laissa dévêtir, puis endossa sa vieille robe de chambre, laquelle était usée et même plus qu'usée. « Faut vous dire que le propriétaire est venu, » déclara Soula Nikita. Bah, « réclamer son argent, bien sûr, » s'enquit Tcharkov avec un geste d'impatience. « Oui, mais il n'est pas venu seul. » Et avec qui donc? Ben, je sais pas au juste, comme qui dirait, avec un commissaire. Un commissaire, pourquoi faire? Ben, je sais pas au juste, paraît que c'est par rapport au terme. Mais qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ben, je sais pas au juste, s'il peut pas payer, qu'il a dit. Alors faudra qu'il décampe. Il va revenir demain tous les deux. Eh bien qu'il revienne, dit Tcharkov avec une sombre indifférence. Et il s'abandonna sans rémission à ses idées noires. Le jeune Tcharkov, c'était un garçon bien doué qui promettait beaucoup. Son pinceau connaissait de brusques accès de vigueur, de naturel, d'observation réfléchie. « Écoute, mon petit, lui disait souvent son maître, tu as du talent. Ce serait péché que de l'étouffer. Par malheur, tu manques de patience. Dès qu'une chose t'attire, tu te jettes dessus sans te soucier du reste. Attention, on ne va pas devenir peintre à la mode. Tes couleurs sont déjà un peu criardes, ton dessin pas assez ferme, les lignes trop floues. Tu recherches les effets faciles, les brusques éclairages à la moderne. Prends garde de tomber dans le genre anglais. Le monde te séduit, j'en ai peur. Je te vois parfois un foulard élégant au cou, un chapeau bien lustré. C'est tentant, à coup sûr, de peindre des images à la mode et de petits portraits bien payés. Mais crois-moi, cela tue un talent au lieu de le développer. Patiente, mûris longuement chacune de tes œuvres. Laisse les autres ramasser l'argent. Ce qui est en toi, tu quitteras point. » Le maître n'avait qu'en partie raison. Certes, notre peintre éprouvait parfois le désir de mener joyeuse vie, de s'habiller avec élégance, en un mot d'être jeune, mais il parvenait presque toujours à se dominer. Bien souvent, une fois le pinceau en main, il oubliait tout et ne le quittait que comme un songe exquis, brusquement interrompu. Son goût se formait de plus en plus. S'il ne comprenait pas encore toute la profondeur de Raphaël, il se laissait séduire par la touche large et rapide du guide. Il s'arrêta et devant les portraits du Titien, il admirait fort les flamands. Les chefs-d'œuvre anciens ne lui avaient point encore livré tous leurs secrets. Il commençait pourtant à soulever les voiles derrière lesquels il se dérobe aux profanes, encore qu'en son fort intérieur, il ne partagea point pleinement l'opinion de son professeur, pour qui les vieux maîtres planaient à des hauteurs inaccessibles. Il lui semblait même que, sous certains rapports, le XIXe siècle les avait sensiblement dépassés, que l'imitation de la nature était devenue plus précise, plus vivante, plus rigoureuse. Bref, il pensait sur ce point au jeune homme dont les efforts ont déjà été couronnés de quelques succès et qui éprouve de ce fait une légitime fierté. Parfois, il s'irritait de voir un peintre de passage, français ou allemand, et qui peut-être n'était même pas artiste par vocation, en imposait par des procédés routiniers le brio du pinceau, l'éclat de la couleur, et amassait une vraie fortune en moins de rien. Ses pensées ne l'assaillaient pas les jours où, plongé dans son travail, il en oubliait le boire, le manger, tout l'univers. Elle fondait sur lui aux heures d'affreuse gêne où il n'avait pas de quoi acheter ni pinceau ni couleur, où l'importun propriétaire le relançait du matin au soir. Alors son imagination d'affamée lui dépeignait comme fort digne d'envie le sort du peintre riche, et l'idée bien russe lui venait de tout planter là pour noyer son chagrin dans l'ivresse et la débauche. Il traversait précisément une de ces mauvaises passes. « Patiente, patiente » grommelait-il, « mais la patience ne pourtant pas être éternelle. C'est très joli de patienter, mais encore faut-il que je mange demain. Qui me prêtera de l'argent? Personne. Et si j'allais vendre mes tableaux, mes dessins, on ne me donnerait pas 20 copecs du tout. Ces études m'ont été utiles, je le sens bien, aucune n'a été entreprise en vain. Chacune d'elles m'a appris quelque chose. Mais à quoi bon tous ces essais sans fin? Qui les achètera sans connaître mon nom? Et d'ailleurs, qui pourrait bien s'intéresser à des dessins d'après l'antique, ou le modèle, ou encore à ma psyché inachevée, à la perspective de ma chambre, au portrait de mon Nikita, encore que franchement, il vaille mieux que ceux de n'importe quel peintre à la mode? En vérité, pourquoi suis-je là à tirer le diable par la queue, à suer sang et eau sur l'ABC de mon art, quand je pourrais briller aussi bien que les autres et faire fortune tout comme eux? Comme il disait ces mots, Tchakov pâlit soudain et se prit à trembler. Un visage convulsé, qui paraissait sortir d'une toile déposée devant lui, fixait sur lui deux yeux prêts à le dévorer, tandis que le pli impérieux de la bouche commandait le silence. Dans son effroi, il voulut crier, appeler Nikita, qui déjà emplissait l'antichambre de ses ronflements épiques, mais le cri mourut sur ses lèvres, cédant la place à un sonore éclat de rire. Il venait de reconnaître le fameux portrait auquel il ne songeait déjà plus, et que le clair de lune qui baignait la pièce animait d'une vie étrange. Il s'empara aussitôt de la toile, l'examina, enleva à l'aide d'une éponge presque toute la poussière et la saleté qui s'y était accumulée, puis quand il eut suspendu au mur, il en admira encore davantage l'extraordinaire puissance. Tout le visage vivait maintenant et posait sur lui un regard qui le fit bientôt tressaillir, reculer, balbutier. Mais il regarde avec des yeux humains. Une histoire que lui avait jadis conté son professeur lui revint à la mémoire. L'illustre Léonard de Vinci avait peiné, dit-on, plusieurs années sur un portrait qu'il considéra toujours comme inachevé. Cependant, à en croire Vasari, tout le monde le tenait pour l'œuvre la mieux réussie, la plus parfaite qui fût. Les contemporains admiraient surtout les yeux, où le grand artiste avait su rendre jusqu'au plus imperceptible vénule. Dans le cas présent, il ne s'agissait point d'un tour d'adresse, mais d'un phénomène étrange et qui nuisait même à l'harmonie du tableau. Le peintre semblait avoir encastré dans sa toile des yeux arrachés à un être humain. Au lieu de la noble jouissance qui exalte l'âme à la vue d'une belle œuvre d'art, si repoussant qu'en soit le sujet, on éprouvait devant celle-ci une pénible impression. « Qu'est-ce à dire ?» se demandait involontairement Tchakov. « J'ai pourtant devant moi la nature vivante. Son imitation servile est-elle donc un crime? Résonne-t-elle comme un cri discordant? Ou peut-être, si l'on se montre indifférent, insensible envers son sujet, le rend-on nécessairement dans sa seule et odieuse réalité ?» sans qu'il illumine la clarté de cette pensée impossible à saisir, mais qui n'en est pas moins latente au fond de tout. Et il apparaît alors sous cet aspect qui se présente à quiconque, avide de comprendre la beauté d'un être humain, s'arme du bistouri pour la disséquer et ne découvre qu'un spectacle hideux. Pourquoi, chez tel peintre, la simple, la vile nature s'auréole-t-elle de clarté? Pourquoi vous procure-t-elle une jouissance exquise, comme si tout autour de vous coulait et se mouvait suivant un rythme plus égal, plus paisible? Et pourquoi chez tel autre, qui lui a été tout aussi fidèle, cette même nature semble-t-elle abjecte et sordide? La faute en est au manque de lumière. Le plus merveilleux paysage paraît lui aussi incomplet quand le soleil ne l'illumine point. Tcharkov s'approcha encore une fois du portrait pour examiner ses yeux extraordinaires et s'aperçut non sans effroi qu'il le regardait. Ce n'était plus là une copie de la nature, mais bien la vie étrange dont aurait pu s'animer le visage d'un cadavre sorti du tombeau. Était-ce un effet de la clarté lunaire, cette messagère du délire qui donne à toute chose un aspect irréel? Je ne sais, mais il éprouva un malaise soudain à se trouver seul dans la pièce. Il s'éloigna lentement du portrait, se détourna, s'efforça de ne plus le regarder, mais malgré qu'il en eût, son œil impuissant s'en détachait, louchait sans cesse de ce côté. Finalement, il eut même peur d'arpenter ainsi la pièce. Il croyait toujours que quelqu'un allait se mettre à le suivre et se retournait craintivement. Sans être peureux, il avait les nerfs et l'imagination fort sensibles. Et ce soir-là, il ne pouvait pas s'expliquer sa frayeur instinctive. Il passa dans un coin, et là encore, il eut l'impression qu'un inconnu allait se pencher sur son épaule et le dévisager. Les ronflements de Nikita, qui lui arrivaient de l'antichambre, ne dissipaient point sa terreur. Il quitta craintivement sa place, sans lever les yeux, se dirigea vers son lit et se coucha. À travers les fentes du paravent, il pouvait voir sa chambre éclairée par la lune, ainsi que le portrait accroché bien droit au mur, et dont les yeux toujours fixés sur lui, avec une expression de plus en plus effrayante, semblait décidément ne vouloir regarder rien d'autre que lui. Ah, le temps d'angoisse, il se leva, saisit un drap, et s'approchant du portrait, la recouvrit tout entier. Quelque peu tranquillisé, il se recoucha et se prit à songer à la pauvreté, au destin misérable des peintres, au chemin semé d'épines qu'ils doivent parcourir sur cette terre. Cependant, à travers une fente du paravent, le portrait attirait toujours invinciblement son regard. Le rayonnement de la lune avivait la blancheur du drap, à travers lequel les terribles yeux semblaient maintenant transparaître. Tcharkov écarquilla les yeux, comme pour bien se convaincre qu'il ne rêvait point. Mais non, il voit pour de bon, il voit nettement. Le drap a disparu, et dédaignant tout ce qui l'entoure, le portrait entièrement découvert regarde droit vers lui, plonge, oui, c'est le mot exact, plonge au tréfonds de son âme. Son cœur se glaça, et soudain, il vit le vieillard remuer, s'appuyer des deux mains au cadre, sortir les deux jambes, sauter dans la pièce. La fente ne laissait plus entrevoir que le cadre vide. Un bruit de pas retentit, se rapprocha, Le cœur du pauvre peintre battit violemment. La respiration coupée par l'effroi, il s'attendait à voir le vieillard surgir auprès de lui. Il surgit bientôt en effet, roulant ses grands yeux dans son impassible visage de bronze. Tchakov voulut crier, il n'avait plus de voix. Il voulut remuer, ses membres ne remuaient point. La bouche bée et le souffle court, il contemplait l'étrange fantôme dont la haute stature se drapait dans son bizarre costume asiatique. Qu'allait-il entreprendre ? Le vieillard s'assit presque à ses pieds et tira un objet dissimulé sous les plis de son ample vêtement. C'était un sac. Il le dénoua, le saisit par les deux bouts, le secoua. De lourds rouleaux, pareils à de minces colonnettes, en tombèrent avec un bruit sourd. Et chacun d'eux était enveloppé d'un papier bleu et portait l'inscription « 1000 ducats ». Le vieil homme dégagea de ses larges manches ses longues mains osseuses et se mit à défaire les rouleaux. Des pièces d'or brillèrent. Surmontant son indicible terreur, Tchakov, immobile, couvait les yeux cet or, le regardait couler avec un têtement frêle entre les mains décharnées, étinceler, disparaître. Tout à coup, il s'aperçut qu'un des rouleaux avait glissé jusqu'au pied même du lit, près de son chevet. Il s'en empara presque convulsivement, et aussitôt, effrayé de son audace, jeta un coup d'œil craintif du côté du vieillard. Mais celui-ci semblait très occupé. Il avait ramassé tous ses rouleaux et les remettait dans le sac. Puis, sans même lui accorder un regard, il s'en alla de l'autre côté du paravent. Tout en prêtant l'oreille au bruit des pas qui s'éloignaient, Tchakov sentait son cœur battre à coups précipités. Il serrait le rouleau d'une main crispée et tremblait de tout le corps à la pensée de le perdre. Soudain, les pas se rapprochèrent. Le vieillard s'était sans doute aperçu qu'un rouleau manquait. Et de nouveau, le terrible regard transperça le paravent, se posa sur lui. Le peintre serra le rouleau avec toute la force du désespoir. Il fit un suprême effort pour bouger, poussa un cri et se réveilla. Une sueur froide l'inondait. Son cœur battait à se rompre. De sa poitrine oppressée, son dernier souffle semblait prêt à s'envoler. « Oh, c'était donc un songe !» se dit-il en se prenant la tête à deux mains. Mais pourtant, l'effroyable apparition avait eu tout le relief de la réalité. Maintenant encore qu'il ne dormait plus, ne voyait-il pas le vieillard rentrer dans le cadre ? N'apercevait-il pas un pan de l'ample costume ? Tandis que sa main gardait la sensation du poids qu'elle avait tenu quelques instants plus tôt. La lune se jouait toujours à travers la pièce, arrachant à l'ombre ici une toile, là une main de plâtre, ailleurs une draperie, abandonnée sur une chaise, un pantalon, des bottes non cirées. À cet instant seulement, Tchakov s'aperçut qu'il était non plus couché dans son lit, mais bien planté juste devant le tableau. Il n'arrivait pas à comprendre ni comment il se trouvait là, ni surtout pourquoi le portrait s'offrait à lui entièrement découvert. Le drap avait disparu. Il contemplait avec une terreur figée ses yeux vivants, ses yeux humains qui le fixaient. Une sueur froide inonda son visage. Il voulait s'éloigner, mais ses pieds semblaient rivés au sol. Et il vit... Non, ce n'était pas un songe. Il vit les traits du vieillard bouger. Ses lèvres s'allongeaient vers lui comme si elles voulaient l'aspirer. Il bondit en arrière en jetant une clameur d'épouvante et brusquement se réveilla. Comment? C'était encore un rêve. Le cœur battant à se rompre, il reconnut à tâtons qu'il reposait toujours dans son lit, dans la position même où il s'était endormi. À travers la fente du paravent qui s'étendait toujours devant lui, le clair de lune lui permettait d'apercevoir le portrait, toujours soigneusement enveloppé du drap. Ainsi donc il avait de nouveau rêvé. Pourtant sa main crispée semblait encore tenir quelque chose. Son oppression, ses battements de cœur devenaient insupportables. Par-delà la fente, il couva le drap du regard. Soudain, il le vit nettement s'entr'ouvrir, comme si des mains s'efforçaient par derrière de le rejeter. « Mais que se passe-t-il, mon Dieu ? » s'écria-t-il en se signant désespérément. Et il se réveilla. Cela aussi n'était qu'un rêve. Cette fois, il sauta du lit, à moitié fou, incapable de s'expliquer l'aventure. Était-ce un cauchemar, le délire, une vision? Pour calmer quelque peu son émoi et les pulsations désordonnées de ses artères, il s'approcha de la fenêtre, ouvrit le vasistas. Une brise embaumée le ranima. Le clair de lune baignait toujours les toits et les blanches murailles des maisons. Mais déjà, de petits nuages couraient de plus en plus nombreux sur le ciel. Tout était calme. De temps en temps, montait d'une ruelle invisible le cahotement lointain d'un fiacre, dont le cocher somnolait sans doute au bercement de sa rosse paresseuse, dans l'attente de quelques clients attardés. Tchakov resta longtemps à regarder, la tête hors du vasistas. Les signes précurseurs de l'aurore se montraient déjà au firmament lorsqu'il sentit le sommeil le gagner. Il ferma le vasistas, regagna son lit, s'y allongea et s'endormit, cette fois, profondément. Il s'éveilla très tard, la tête lourde, en proie à ce malaise que l'on éprouve dans une chambre enfumée. Un jour blafard, une désagréable humidité s'insinuait dans l'atelier, à travers les fentes des fenêtres que bouchaient des tableaux d'étoiles préparées. Sombre et maussade comme un coq trempé, Tchakov s'assit sur son divan en lambeaux. Il ne savait trop qu'entreprendre, quand, soudain, tout son rêve lui revint en mémoire. Et son imagination le fit revivre avec une intensité si poignante qu'il finit par se demander s'il n'avait point réellement vu le fantôme. Arrachant aussitôt le drap, il examina le portrait à la lumière du jour. Si les yeux surprenaient toujours par leur vie extraordinaire, ils n'y découvraient rien de particulièrement effrayant. Malgré tout, un sentiment pénible, inexplicable, demeurait au fond de son âme. Il ne pouvait acquérir la certitude d'avoir vraiment rêvé. En tout cas, une étrange part de réalité avait dû se glisser dans ce rêve. Le regard même et l'expression du vieillard semblaient continuer sa visite nocturne. La main du peintre éprouvait encore le poids d'un objet qu'on lui aurait arraché quelques instants plus tôt. Que n'avait-il serré le rouleau plus fort? Sans doute l'aurait-il conservé dans sa main, même après son réveil. Mon Dieu, connais-je au moins une partie de cet argent? Se dit-il en poussant un profond soupir. Il revoyait toujours sortir du sac les rouleaux à l'inscription alléchante « 1000 ducats ». Il s'ouvrait, éparpillant leur or, puis se refermait, disparaissait, tandis que lui demeurait stupide, les yeux fixés dans le vide, incapable de s'arracher à ce spectacle, comme un enfant à qui l'eau vient à la bouche en voyant les autres se régaler d'un entremets défendu. Un coup frappé à la porte le fit fâcheusement revenir à lui. Et son propriétaire entra, accompagné du commissaire de quartier, personnage dont l'apparition est, comme nul ne l'ignore, plus désagréable aux gens de peu que ne l'est aux gens riches la vue d'un solliciteur. Le dit propriétaire ressemblait à tous les propriétaires d'immeubles si, dans la 15e ligne de l'île Basile, dans quelques coins du vieux Pétersbourg ou tout au fond du faubourg de Kolonna. C'était un de ces individus, fort nombreux dans notre bonne Russie, dont le caractère serait aussi difficile à définir que la couleur d'une redingote usée. Au temps lointain de sa jeunesse, il avait été capitaine dans l'armée, et je ne sais trop de quoi dans le civil. Grand brailleur, grand fustigeur, débrouillard et mirliflore, pour demeurant un sot. Depuis qu'il avait vieilli, toutes ses particularités distinctives s'étaient fondues en un morne ensemble indécis. Veuf et retraité, il se faisait plus ni le fendant, ni le vantard, ni le casseur d'assiettes. Il n'aimait qu'à prendre le thé en débitant toutes sortes de fadaises. Il arpentait sa chambre, mouchait sa chandelle, s'en allait tous les 30 du mois réclamer son argent à ses locataires, sortait dans la rue, sa clé à la main pour examiner son toit, chassait le portier de sa tanière toutes les fois que le pauvre diable s'y enfermait pour faire un somme. Bref, c'était un homme à la retraite qui, après avoir jeté sa gourme et passablement roulé sa bosse, ne gardait plus que de mesquines habitudes. « Rendez-vous compte, vous-même, Baruch Kumitch, dit le propriétaire en écartant les bras. Il ne paye pas son terme, il ne paye pas. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Je n'ai pas d'argent pour le moment. Patientez quelque peu. » Le propriétaire jeta Léo cri. « Patientez, impossible, mon ami. Savez-vous qui j'ai pour locataire, monsieur? Le lieutenant-colonel Patogoukni, monsieur, et depuis 7 ans, s'il vous plaît. Madame Anna Petrovna Barkizisterov, une personne qui a 3 domestiques, monsieur, et à qui je loue encore ma remise ainsi qu'une écurie à 2 boxes. Chez moi, voyez-vous, on paye son terme, je vous le dis tout franc. Veuillez donc vous exécuter sur le champ et ne plus quitter ma maison sans retard. » Oui. « Évidemment, puisque vous avez loué, vous devez payer la somme convenue, » dit le commissaire avec un léger hochement de tête, un doigt planté derrière un bouton de son uniforme. « Mais où voulez-vous que je la prenne? Je n'ai pas le sou. » « Alors, dans ce cas, veuillez donner satisfaction à Ivan Ivanovitch par des travaux de votre profession. Il acceptera peut-être d'être payé en tableau. » Oh, tableau, oh, merci bien, mon cher. Encore si c'était des peintures à un sujet noble, qu'on pourrait pendre au mur, à un général et ses crachats, le prince Kutuzov ou quelque chose de ce genre. Mais non, oh, monsieur le pack des croquants. Tenez, voilà le portrait du gaillard qui lui broie ses couleurs. A-t-on idée de prendre pour modèle un saligot pareil? Celui-là, oh, la même démange de lui flanquer une volée. Il m'a enlevé tous les clous d'étargette, le bandit. Regardez-moi ces sujets. Tenez, voilà sa chambre. Si encore il la représentait propre et bien soignée, mais non, il l'a pas avec toutes les saletés qui traînent dedans. Voyez un peu comme il m'a souillé cette pièce. Regardez, mais regardez vous-même. Moi, chez qui des gens comme il faut passent des 7 ans entiers, un lieutenant-colonel, Madame Bouchbisterov. Non, évidemment, il n'y a pas de pire locataire qu'un artiste. Sa vie comme un pourceau. Dieu nous préserve de mener jamais pareille existence. Le pauvre peintre devait patiemment écouter tout ce fatras. Cependant, le commissaire reluquait études et tableaux. Il montra bientôt que son âme, plus vivante que celle du propriétaire, était même accessible aux impressions artistiques. Eh, fit-il, en désignant du doigt une toile sur laquelle était peinte une femme nue. Ben, sujet plutôt folâtre. Et ce bonhomme-là, pourquoi a-t-il une tache noire sous le nez? Il s'est peut-être sali avec du tabac. Non, c'est l'ombre, répondit sèchement Tchakhov, sans tourner les yeux vers lui. Oh, vous auriez bien dû la transporter ailleurs. Sous le nez, ça se voit trop, dit le commissaire. Et celui-là, qui est-ce? Continua-t-il en s'approchant du fameux portrait. Oh, il fait peur à voir. Avait-il l'air si terrible en réalité? Ah, mais il nous regarde tout simplement. Quel croque-mitaine! Qui vous a donc servi de modèle? Oh, c'est un... voulut dire Tchakhov, mais un craquement lui coupa la parole. Le commissaire avait sans doute serré trop fort le cadre dans ses lourdes mains d'argousin. Les bordures cédèrent. L'une tomba par terre et en même temps, qu'elle, un rouleau enveloppé de papier bleu qui tinta lourdement. L'inscription 1000 ducats sauta aux yeux de Tchakhov. Il se précipita comme un insensé sur le rouleau, le ramassa, le serra convulsivement dans sa main, abaissé par le poids de l'objet. « N'est-ce pas de l'argent qui a teinté ?» dit le commissaire. Il avait bien entendu tomber quelque chose, sans que la promptitude de Tchakhov lui eût permis de voir ce que c'était au juste. Mais en quoi cela vous regarde-t-il? En ceci, monsieur, que vous devez un terme à votre propriétaire et que, tout en ayant de l'argent, refusez de le payer, compris? Bon, je le lui paierai dès aujourd'hui. Et pourquoi donc, s'il vous plaît, refusiez-vous de le faire? Pourquoi lui occasionnez-vous du dérangement à ce digne homme, à la police, par-dessus le marché? Parce que je ne voulais pas toucher à cet argent. Mais je vous répète que je lui réglerai ma dette ce soir même. Et je quitterai dès demain sa maison, car je ne veux pas rester plus longtemps chez un pareil propriétaire. Alors, Ivan Ivanovitch, il vous paiera. Et s'il ne vous donne pas entière satisfaction, dès ce soir, alors monsieur l'artiste, vous aurez affaire à nous. Sur ce, il se coiffa de son tricorne et gagna l'antichambre, suivi du propriétaire qui baissait la tête et semblait rêveur. « Bon débarras, vieux merci !» s'exclama Tchakhov quand il entendit la porte d'entrée se refermer. Il jeta un coup d'œil dans l'antichambre, envoya Nikita en course pour être complètement seul et revenu dans son atelier, se mit, le cœur palpitant, à défaire son trésor. Le rouleau, semblable en tout point à ce qu'il avait vu en rêve, contenait exactement 1000 ducats, flambant neufs et brûlant comme du feu. « N'est-ce point un songe ? » se demanda-t-il encore en contemplant à demi-fou ce flot d'or qu'il palpait éperdument sans pouvoir reprendre ses esprits. Des histoires de trésors cachés, de cassettes à tiroirs secrets, léguées par de prévoyants ancêtres à des arrière-neveux dont il pressentait la ruine, obsédaient en foule son imagination. Il en vint à se croire devant un cas de ce genre. Sans doute, quelque aïeul avait-il imaginé de laisser à son petit-fils ce cadeau enclos dans le cadre d'un portrait de famille. Emporté par un délire romanesque, il se demanda même s'il n'y avait pas là un rapport secret avec son propre destin. L'existence du portrait n'était pas liée à la sienne, et son acquisition prédestinée. Il examina très attentivement le cadre. Une rainure avait été pratiquée sur l'un des côtés, puis recouverte d'une planchette, mais avec tant d'adresse et de façon si peu visible que, n'était la grosse patte du commissaire, l'éducat y aurait reposé jusqu'à la consommation des siècles. Sa vue s'était du cadre reporté sur le tableau. Il en admira une fois de plus la superbe facture et singulièrement l'extraordinaire fini des yeux, et il les regardait maintenant sans crainte, mais toujours avec un certain malaise. « Allons, se dit-il, de qui que tu sois l'aïeul, je te mettrai sous verre, et en échange de ceci, je te donnerai un beau cadre doré. » Ce disant, il laissa tomber sa main sur le tas d'or étalé devant lui. Son cœur précipita ses battements. « Mais qu'en faire ?» se demandait-il en le couvant du regard. « Voilà ma vie assurée, et pour 3 ans au moins. J'ai de quoi acheter des couleurs, payer mon dîner, mon thé, mon entretien, mon logement. » Je puis m'enfermer dans mon atelier et y travailler tranquillement. Nul ne viendra plus m'importuner. Je vais faire l'emplette d'un excellent mannequin, me commander un torse de plâtre et y modeler des jambes. Cela me fera une Vénus. Acheter enfin des gravures d'après les meilleurs tableaux. Oh, si je travaille 3 ans sans me dépêcher, sans songer à la vente, je les enfoncerai tous. Et pourrait devenir un bon peintre. Voilà ce que lui dictait sa raison. Mais au fond de lui-même s'élevait une voix plus puissante. Et quand il eut jeté un nouveau regard sur le tas d'or, ses 22 ans, son ardente jeunesse, lui tinrent un bien autre langage. Tout ce qu'il avait contemplé jusqu'alors avec des yeux envieux, tout ce qu'il avait admiré de loin, l'eau à la bouche, se trouvait maintenant à sa portée. Ah ! Comme son cœur ardent se mit à battre de ce que cette pensée lui vint. S'habiller à la dernière mode, faire bombance après ses longs jours de jeûne, louer un bel appartement, aller tout de suite au théâtre, au café, au... Oh ! Il avait déjà sauté sur son or et se trouvait dans la rue.